pour cette rencontre qui s'insère dans un cycle de rencontres organisées par la Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme et en l'occurrence ce soir pour parler d'un volume qui paraît aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme, un volume qui est dirigé par Sarah Guindani et Alexis Nous. Tous les deux sont là autour de moi pour en parler ce soir, pour parler évidemment de leur texte, de leur contribution, mais aussi des autres contributions qu'ils ont réunies pour ce volume, qui est un volume d'hommage, peut-on dire, d'une certaine façon, à Jacques Derrida. La dissémination à l'œuvre, c'est son titre, Jacques Derrida, La dissémination à l'œuvre, qui est un ouvrage sur la question de l'héritage, au fond, de Derrida, et pour lequel ce mot de dissémination a été préféré à celui d'héritage. Vous nous expliquerez pourquoi. Et c'est un ouvrage qui nous amène dans des directions très, très différentes, comme on pouvait s'y attendre quand on connaît le travail de Derrida, et en même temps des directions auxquelles on pouvait s'attendre aussi, du côté de la justice, par exemple, voilà, pour ne prendre qu'un exemple, mais aussi qui s'intéresse à des choses extraordinairement contemporaines. Je pense notamment à des choses qui sont liées à la mutation numérique qui traversent ce livre. Et on verra que pour penser ces choses qui sont nouvelles pour certaines d'entre elles et postérieures, je dirais, au travail de Derrida, dans leur existence même, en fait, l'œuvre de Derrida est précieuse. Voilà. Alors, Alexis Nous est professeur de littérature générale et comparée à l'université de Aix-Marseille. C'est bien ça. Longtemps enseigné à l'étranger, au Pays de Galles, au Canada. Et puis, il est associé à cette institution, la Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme. Et donc, c'est avec vous, Sarah Guindani, vous avez co-dirigé ensemble cet ouvrage. Vous êtes philosophe, vous êtes aussi psychologue et psychanalyste. Et donc, vous avez ensemble, et moi, ce sera ma première question, réuni ces contributions. J'ai cherché quelque part si le livre était, d'une manière ou d'une autre, la trace d'un événement, d'un colloque, d'une rencontre, ou s'il avait été conçu de toutes pièces pour être un livre dès le départ. Je n'ai pas trouvé la réponse, et donc je me suis dit que c'était un livre en lui-même et pour lui-même. Qu'en est-il exactement? Je ne sais pas qui d'entre vous veut. Sarah Guindani?
Oui, écoutez, on ne s'est pas concerté, et il faut dire que j'étais un peu inquiète de ça, mais on n'aurait pas pu faire mieux, parce qu'en fait, oui, vous avez vraiment saisi beaucoup de choses qui font l'histoire de ce livre. Et en effet, voilà, je souhaiterais commencer cette rencontre en parlant de l'histoire de ce livre, parce que je pense que ce n'est pas juste anecdotique, c'est vraiment que chaque livre raconte une histoire, et aussi, surtout, même, je dirais, ces livres qui mettent ensemble ou tentent de le faire plusieurs voix et plusieurs regards, comme c'est le cas, comme vous venez de le dire, de ce livre-là. Alors, ce qui est intéressant, en repensant un peu après coup aussi à l'histoire de ce livre, c'est que ce livre semble porter le signe, en fait, d'une logique profondément derridienne. Une logique que je pourrais appeler de l'architrace. En effet, l'origine de ce livre, en tant que cause efficace ou événement, comme vous le disiez, justement, vous alliez chercher cette cause, hein, la cause efficace de cet objet matériel, semblerait se dérober, différer, hein, par rapport au volume actuel qu'on a ici. En 2014, donc à 10 ans de la disparition de Jacques Derrida, la Fondation Maison de Sciences de l'Homme avait organisé en effet un colloque de 3 jours qu'on avait organisé entre la Maison de la Poésie et la Fondation Gulbenkian. Un colloque très riche qui a eu beaucoup de succès, où s'alternaient des interventions de savants philosophes, et qui avait eu beaucoup de succès de public, d'ailleurs, grâce aussi aux ressources de la Fondation, qui soit ici, encore une fois, à remercier. On a tout le matériel sur le site de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme. Toutefois, malgré ce succès, il faut dire qu'à la fin du colloque, les différences et les dissonances ont commencé à se lever autour de la question de l'héritage de Jacques Derrida. Je rappelle que le titre du colloque à 10 ans de la mort était « Héritage et survivance de Jacques Derrida ». C'est important parce que ce mot revient régulièrement. Donc, du plan du discours, nous sommes passés au plan de la performativité. Comme si parler de Derrida, et c'est bien le cas de le dire, parce que, bon, nous savons bien que c'est un auteur qui a suscité beaucoup de mimétisme, d'effets mimétiques chez certains, pouvait établir une plus ou moins pure filiation, la question de l'héritage. Donc, une plus ou moins pure héritage de la pensée de Derrida. Et du moment où, là où on commence à évoquer le paradigme de la pureté, il y a toujours plus pur, évidemment. Ainsi, les voix recueillies autour de ce colloque ont commencé à se disperser par-ci, par-là, en revendiquant chacune de son côté la fidélité à l'original. Donc, c'est une histoire qui met en scène presque un peu la question de qu'est-ce que hériter de Derrida. Ce livre, donc, avec un peu de temps, parce qu'on est en 2022, et je vous parle d'un colloque de 2014, ce livre est donc la tentative de cet héritage impossible. Donc impossible pour plusieurs raisons. Tout d'abord, car si la question de l'héritage affectait profondément Jacques Derrida, celui-ci n'a eu de cesse de mettre en garde ses élèves, ses étudiants, contre les pièges de la transmission et de la dette. Et voilà pourquoi imaginer des Derridiens purs héritiers du maître est quelque chose de étranger et je dirais même antinomique au projet derridien. La pensée de Derrida est une pensée de l'événement qui supporte mal la répétition et c'est la raison pour laquelle ses critiques, les critiques de Derrida, sont paradoxalement peut-être ses plus fidèles héritiers. Partir sur les traces de Derrida pour bâtir son propre chemin, tel serait peut-être le meilleur moyen de le retrouver enfin. Donc, pour une philosophie de la trace et donc de la subjectivité, ou du moins une philosophie qui tient compte de cet apport subjectif et de l'interprétation, versus une philosophie de la preuve qui penche du côté du seul objet ou du soupçon, l'attitude au contour vaguement obsessionnel, voire paranoïaque. Ce recueil est donc une tentative de lui être fidèle dans la logique paradoxale de la différence et de la dissémination. Et c'est selon ce projet qu'Alexis et moi-même avons voulu solliciter plusieurs auteurs. Marc Abelès, qui est l'un des auteurs et présent en salle, nous a fait la gentillesse de venir, merci. Donc des philosophes, mais aussi des anthropologues, des littéraires, des poètes, pour voir comment la constellation conceptuelle et épistémique inaugurée par Derrida a pu être efficace dans les sciences sociales et sur des questions fortement contemporaines, comme on vient de l'évoquer. Donc voilà, ça c'est un peu pour l'histoire, mais qui finalement s'articule tellement bien aussi au projet philosophique qu'il y a derrière.
Alexis, je vous laisse rajouter.
Oui, il y a aussi notre histoire, à savoir que moi-même j'ai enseigné l'héritage selon Derrida, il faut déconstruire l'héritage, etc., etc. Mais il n'empêche qu'on a besoin d'héritage. Que je me sens singulièrement dans un univers dépeuplé. Depuis qu'on a sorti le bouquin, Stiegler a disparu, Nancy a disparu. Et l'univers me semble singulièrement dépeuplé. Moi, j'ai une question à vous poser, Sylvain. Vous qui êtes observateur très fin des sciences humaines et sociales, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire en France dans les années 1960, 1950, 60, 70. Lacan, Foucault, Derrida, etc. Et maintenant, qu'en reste-t-il ? Et j'ai l'impression qu'il n'en reste pas grand-chose. Alors je peux effectivement me réfugier du côté de la dissémination en disant que précisément la dissémination, ce n'est pas la transmission compacte d'un savoir, mais au contraire l'éclatement, etc. Mais il n'empêche qu'il y a une parole publique qui est désormais singulièrement occupée par, un, des discours extrêmement dangereux, et deux, par des histrions qui n'ont rien d'intellectuel du type de ceux qui peuplaient la scène universitaire, la scène de la recherche, ou la scène intellectuelle, tout simplement dans les années 60, 70, encore une fois. Et quand je vous dis, j'ai envie de vous poser cette question, ce n'est pas du tout de la rhétorique, ce n'est pas du tout un artifice. J'ai vraiment envie de vous poser la question pour voir si, par exemple, vous qui êtes, encore une fois, presse écrite, presse la radio, AOC, etc., etc., est-ce que je me trompe complètement ? Ou est-ce qu'il n'y a pas une discontinuité fondamentale, radicale, et que c'est cet univers-là que nous devons admettre ? Personnellement, c'est à partir de cet univers-là que j'ai voulu faire ce livre-là, que j'ai voulu réfléchir sur la possibilité que parfois l'histoire des idées résonne d'un vide sidérant. Alors, dissémination contre héritage, c'est facile. C'est facile. L'héritage, encore une fois, c'est la transmission. Bon. La dissémination, c'est la multiplication des transmissions possibles. Mais il n'empêche que vous avez, vous aussi d'ailleurs, vous avez des étudiants, puis vous avez vos auditeurs, vous avez vos lecteurs. Sarah, je dirais, a aussi des personnes qu'elle rencontre dans son cabinet. Moi, j'ai mes étudiants. Ils attendent quelque chose. Et je me sens actuellement dans la posture où je ne peux pas transmettre. Où cette posture-là aboutit à, je ne dirais pas un autoprocès d'imposture, mais quelque chose de cet ordre-là. Et je crois que le courage de Derrida, parce que Derrida était quelqu'un d'un immense courage intellectuel, la déconstruction, c'est d'abord un immense courage intellectuel, c'est aussi d'analyser les conditions de production des discours. Et peut-être aujourd'hui de dire que nous sommes dans une historicité qui ne permet plus la transmission des discours. Et que donc, il y a un gros problème qui se pose. Politiquement, je vois avec beaucoup de sympathie de nouvelles formes. De nouvelles formes de conscience politique. Ça s'appelle Occupy, ça s'appelle Nuit Debout, ça s'appelle Gilet Jaune, etc., etc. Ça s'appelle altermondialisation, etc. Mais je ne parviens pas à faire le lien entre ces nouvelles pensées politiques et ces nouvelles pensées du politique et ce à quoi j'ai été nourri et ce qui me sert de cadre intellectuel. Et donc, pour répondre à votre question, je crois qu'il y a pour moi quelque chose qui est une espèce de sommation de l'actualité qui me demande « définis-toi » par rapport à cet héritage-là. Et la conclusion peut être assez pessimiste. Alors on sait qu'on a, du côté de Gramsci, etc., bon, pessimisme de l'intelligence, optimisme du cœur, etc., etc. Oui, sauf que le pessimisme de l'intelligence, il peut aussi mener à des impasses. Et je crois que ce livre-là, c'est la tentative justement de ne pas s'enfermer dans une impasse. Et je vous repose la question, Sylvain. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Je ne sais pas si je suis capable de vous répondre, puis je ne veux pas prendre la parole trop longtemps. Je suis là plutôt pour poser des questions que pour y répondre.
C'est écrit conversation, dialogue.
Bon. Mais... Il y a plusieurs remarques et plusieurs questions dans votre intervention, Alexis, à l'instant. Il y a ce qui touche à à la différence de paysage intellectuel, on va dire, entre cette période que vous évoquiez des années 60-70 et puis aujourd'hui, en termes de grandes figures en particulier. Et puis, il y a ce qui touche aux règles du fonctionnement de l'espace public, et notamment dans sa version la plus médiatisée. Et de ce point de vue-là, les choses sont différentes, à mon avis. C'est-à-dire que je ne crois pas du tout, je suis même sûr du contraire, à l'idée d'un appauvrissement des productions en sciences humaines et sociales entre aujourd'hui et les années 60-70. Je suis même certain du contraire. Je pense que jamais les sciences humaines et sociales ont été aussi prolifiques, à l'origine de travaux passionnants. Simplement, ces travaux, ils sont précisément disséminés. Ils ne sont pas le fait de quelques figures facilement repérables. Et donc, le travail qui est le mien, de passeur, c'est un travail qui nécessite de repérer, de veiller, d'être curieux, et d'être curieux au-delà des textes et des postures qui consistent simplement, par mimétisme, à reproduire des manières de penser anciennes. Des épigones, il y en a moins, s'agissant de Jacques Derrida, que s'agissant de Pierre Bourdieu, par exemple. Mais il y en a, et ce n'est pas forcément ce qu'il y a toujours de plus intéressant. C'est même souvent le contraire. Ce qui ne veut pas dire que la pensée ou la théorie ou les concepts de Pierre Bourdieu ne soient pas pertinents et intéressants. Ils le sont pour peu qu'on sache en faire un usage qui n'est pas simplement référentiel et révérentiel, mais qui soit créatif et qui permette aussi d'aller à la rencontre d'autres pensées, d'autres théories, d'être dans des formes d'hybridation. J'ai été contemporain en tant qu'étudiant d'un certain nombre de disputes intellectuelles majeures dans le champ qui est le mien, qui est la sociologie, de schisme. Bon, celui qui a fait s'éloigner Luc Boltanski de Pierre Bourdieu, celui qui a fait une certaine distance aussi entre Bruno Latour et Pierre Bourdieu, celui qui... Voilà. Et malgré tout, j'ai vu des gens qui parvenaient à lire, pour rester sur cet exemple, et Latour et Jacques Bouvresse, je pense au livre formidable de Yann Hacking, et pour que ça ne se transforme pas en une espèce de règlement de compte à hockey choral. Bon. Et donc, je crois qu'il faut être... Il faut être attentif, il faut être curieux. Ça, c'est pour ce qui concerne le paysage intellectuel. Maintenant, l'autre problème qui me semble... Enfin, le problème, parce que ça, je ne pense pas que ce soit un problème, en fait. Si problème de dissémination, il y a, il tient à la manière dont l'espace public est configuré par des règles du jeu différentes aujourd'hui. Et ça touche notamment la partie médiatisée. Je dis, mais ça touche aussi la partie académique. C'est-à-dire que la mutation numérique contribue fortement à un désossage des revues, comme il contribue à un désossage des journaux. Et donc, la plupart des gens sont dans des rapports très opportunistes à leur lecture et ne vont lire que des choses qui les intéressent par des mots-clés, en laissant de côté toute la sérendipité qui fait le plaisir de la lecture du journal, mais aussi de la revue académique. Et je suis frappé que ce qui détruit le journal généraliste détruit aussi la revue académique, qu'aujourd'hui, par exemple, pour prendre ma discipline, la science politique, quand j'étais étudiant, tous les professeurs de sciences politiques de ce pays étaient abonnés à la revue française de sciences politiques. Aujourd'hui, plus aucun ne l'est. Il n'y a plus que des institutions, parce qu'au fond, chacun va y chercher l'article qui concerne le domaine de recherche qui l'intéresse. Et ça, c'est une... Je veux dire, y compris dans cette maison, qui est quand même un lieu, normalement, de croisement extrêmement important, ces logiques de spécialisation produisent beaucoup de dégâts. Et le projet d'AOC est vraiment pensé comme une tentative de garder une forme d'utopie universaliste d'entretien de cette curiosité. Ça, c'est toujours pour ce qui concerne le paysage intellectuel. Mais ce qui est plus grave, et ce que vous pointiez, c'est plutôt l'aspect médiatique de ça, et qui profite effectivement à ces histrions, à ces discours dangereux. Ce sont les logiques économiques, parce que ce ne sont pas des agendas idéologiques. Je ne pense pas qu'on puisse faire l'hypothèse que tous les journalistes de LCI ou de BFM soient des fascistes. Sinon, on ne comprend rien. Je pense qu'il y a là des logiques économiques et professionnelles profondes qui produisent le spectacle, les matchs de catch que l'on a aujourd'hui aussi bien sur BFM, pour reprendre le débat entre Mélenchon et Zemmour de la semaine dernière, qu'à la une de l'Obs cette semaine, qui met en scène Alain Finkielkraut et Alice Coffin. Donc ces logiques de catch, dirait Christian Salmon, elles sont désormais omniprésentes. Et elles vont, je terminerai là-dessus, je veux dire, Derrida était l'un de ceux qui nous a mis en garde très tôt. Il a été un compagnon du journal dont je me suis occupé pendant une quinzaine d'années, Les Inoccupables, au point que quand on a lancé un appel contre la guerre à l'intelligence en 2004, il fut l'un des premiers signataires, et que l'un des derniers entretiens, je crois l'avant-dernier entretien qu'il a donné avant de mourir, s'appelait « Si je peux faire plus qu'une phrase ». Était vraiment à propos de cette difficulté de la prise de parole dans l'espace public pour celui qui voudrait tenter d'analyser des choses compliquées, des choses qui exigent des nuances, qui exigent du temps, etc. Et donc ça, je vous parle de 2004, on avait déjà une conscience assez aiguë de ce problème depuis longtemps, et les choses n'ont fait que s'aggraver d'une façon qu'on n'imaginait pas, parce qu'on n'avait pas idée de ce que des effets qu'aurait la mutation numérique qu'on vit aujourd'hui. Donc moi, j'étais heureux de retrouver d'ailleurs beaucoup de choses sur le numérique dans ce volume, parce que je pense que c'est quelque chose, je pense qu'hériter de Derrida, c'est aussi être capable de prendre cet objet-là, de se poser des questions par rapport à cet objet-là. Voilà, je m'en tiens là pour l'instant. Peut-être je vais vous donner l'occasion de revenir aussi sur les contributions qui ont été les vôtres.
Oui, ben, je rebondis aussi pour clore le cercle un peu sur l'inquiétude d'Alexis, parce que bon, ça fait aussi un peu partie d'un petit théâtre philosophique qu'on fait souvent, c'est-à-dire le pessimiste et l'optimiste, mais ce n'est pas aussi noir et blanc. Et c'est vrai, je partage avec vous le sentiment que peut-être, comment dire, les choses n'apparaissent pas là où on les attend. Et c'est vrai que peut-être, en regardant les départements de philosophie en ce moment, pas tous, parce qu'il y a des choses très belles qui sont en train de bouger aussi dans les disciplines qui sont les nôtres. Je pense aussi aux études postcoloniales qui n'étaient pas dans les universités françaises. La question vraiment prend de l'ampleur, et notamment aussi grâce à la pensée de Derrida et de tous ces philosophes qui ont changé un peu le paysage. Mais je pense que vraiment, peut-être les changements majeurs, les héritiers plus fidèles dans leur infidélité, sont à chercher, par exemple, dans la philosophie de l'écologie qui est en train de se faire. C'est-à-dire que ça a des retombées très pratiques, je trouve, aussi, ce que Derrida a ouvert. On a ici quelqu'un qui s'occupe des domestications et de philosophie de l'animal. Et ben, c'est des recherches. Justement, la question, est-ce qu'on mange la viande? C'est une question peut-être qu'on se serait pas posé dans les départements de philosophie, malgré que ça soit un thème ancien, évidemment, depuis Plutarque et tout ça. Mais quand même, dans les années 70, on n'aurait pas fait de colloque sur pourquoi mange-t-on de la viande, alors que maintenant, à Paris, en Sorbonne, il y a des gens qui se... Donc, il y a beaucoup aussi ces questions-là. Et je pense justement qu'on a eu la chance de pouvoir accueillir un article de Bernard Stiegler, qui était sûrement un des plus grands représentants de cette fidélité dans l'infidélité. Et ce qu'il a voulu faire, c'est vraiment ouvrir la voie. Il a été quand même charmé, fasciné par cet interlocuteur un peu complètement même nouveau, qui était Greta Thunberg, et a changé même le nom de son institut pour le dédier. Je pense que que c'est vrai. Il y a des choses, peut-être, je comprends, hein, surtout en tant que, voilà, que psychanalyste aussi, cette fracture des générations, c'est quelque chose qui peut être très douloureux et incompréhensible parfois. Mais je pense aussi que parfois, il faut... Voilà, c'est nous aussi qui devons changer de regard et parfois chercher là où on ne s'attend pas, changer aussi les logiques. Moi, bon, tu le sais, je ne suis pas aussi pessimiste. Je pense aussi, comme je te le disais, bon, on est à 84% de population vaccinée. Donc, est-ce que c'est, voilà, toute cette polémique sur les antivax, est-ce que finalement, c'est vraiment quelque chose d'aussi réellement impactante qu'on en a l'impression parfois, parce que justement il y a aussi un changement dans les médias qui fait en sorte que ça soit plus facile de faire remonter sa voix. Et donc bon, je pense que voilà, qu'on l'a pas perdu, on l'a pas perdu, Derrida, et ce qu'il a voulu nous transmettre.
Je crois que ce qui est important de rappeler, c'est que la pensée de Derrida est une pensée qui s'inscrit dans l'histoire et qui répond à l'histoire. La notion de réponse est évidente chez Derrida. Derrida, c'est une pensée de l'avec. C'est avec l'image, avec la poésie, avec la philosophie, avec le cinéma, avec etc., etc. Et cette pensée de l'avec, c'est, pour être résumé, c'est une pensée avec l'histoire. Dans l'histoire, et aussi avoir ce détachement qui permet de juger de l'histoire. La question qui, pour moi, est essentielle et qui apparaît tout au long du volume, c'est cette possibilité de reconnaître une interruption et de prendre cette interruption comme un facteur de productivité de la pensée. La dissémination, c'est avant tout la prise en compte d'une impossibilité. Alors, il y a plein de définitions de la déconstruction, et heureusement, une des définitions, c'est ce qui nous permet de penser la possibilité de l'impossible ou l'impossibilité du possible. Bon. C'est ce qui nous permet de penser l'aporie. C'est ce qui nous permet de repenser l'Aufhebung de Hegel, c'est-à-dire le dépassement, etc., etc. Donc, quelque chose n'est plus là, et pourtant, on doit conserver quelque chose de l'ordre de la trace, etc., etc. Ce qui, pour moi, est évident, et ce qui nous a amené aussi à choisir le titre, c'est que la dissémination, comment peut-elle œuvrer? Elle ne peut pas œuvrer, elle ne peut pas produire une œuvre, mais elle peut être à l'œuvre. C'est-à-dire qu'elle peut travailler, elle peut faire travailler les dispositifs de pensée, travailler les imaginaires, travailler les consciences individuelles ou les consciences collectives. Et je crois que cette dissémination ainsi comprise permet, même pour un pessimiste comme je le suis, de pouvoir ne pas renoncer à cette conscience que l'histoire ne s'est pas arrêtée. Je crois que le discours le plus antagoniste par rapport à la pensée de Derrida, c'est la fin de l'histoire. C'est la fin de l'histoire. Alors qu'on lui a prêté cette idée, etc., etc. Je pense que toute la force, justement, de Derrida, c'est de dire, de toute façon, vous êtes dans l'histoire et vous êtes porté par cette histoire-là. C'est la messianicité sans messianisme. C'est le... Bon, etc., etc. Et je pense que cette poussée, cette pulsion-là est essentielle dans notre compréhension de la dissémination. La dissémination, c'est pas simplement un discours qui pourrait être décomposé et, dans cette fragmentation, reproduire ensuite, germer et produire d'autres discours, c'est véritablement une vitalité de la pensée qui va continuer à se manifester. Y a un vitalisme chez Derrida. Et je crois que la dissémination à l'œuvre, c'est retrouver ce vitalisme-là. Ce qui me semble nécessaire, et là je reviens à mon pessimisme, parce que les forces mortifères sont là, extrêmement présentes, extrêmement présentes. Les forces mortifères, c'est bien sûr bon, la pensée fasciste qui revient, etc., mais c'est par exemple ce retour de l'irrationalisme. Entre les propos de l'histrion, dont on ne va pas donner le nom, et l'attitude... qui remet en question l'autorité de la science, par exemple, il y a un continuum. Et je crois que la pensée de Jacques Derrida, elle est en difficulté quand précisément elle doit déconstruire quelque chose qui échappe à la rationalité. Et là, pour moi, il y a une impasse. Et d'une certaine manière, les réponses par les diverses collaboratrices, collaborateurs, ont été par rapport à cette question-là. Il y a un risque de ne plus pouvoir rationnellement discuter, ne plus pouvoir phraser, comme dirait Lyotard, être dans l'impossibilité de phraser, de répondre. Et je crois que le pari de ce bouquin, c'est aussi de dire, effectivement, le risque est là. Et qu'est-ce qu'on fait à partir de ce risque-là ? Les questions, c'est l'interrogation du côté de l'anthropologie, du côté de la philosophie, du côté de l'histoire du cinéma, de la photographie, etc. Et je crois que cette notion-là... Et c'est étonnant parce que, justement, on a tendance à construire une image de Derrida comme l'anti-rationnel. Il aurait déconstruit la rationalité et donc il aurait ouvert la porte. On le voit, ça aussi. La responsabilité de Derrida dans le chaos mental dans lequel nous sommes. Il y a aussi un discours qui est en circulation à ce propos. Or, je crois que précisément la force de Derrida, c'est de nous dire si cet exercice-là de la raison nous est enlevé, là, il faut commencer à s'inquiéter. Et toutes ces contributions viennent nous dire n'abandonnons pas. Le travail de la raison est encore possible, même par rapport à des choses aussi traumatisantes que la mort, par exemple. La mort, elle parcourt l'ensemble. Je veux dire, c'est très émouvant. Je pense que c'est aussi très émouvant de voir que la mort de Derrida nous a tous frappés. Mais je veux dire, de manière extrêmement personnelle. Le texte de Sarah est bouleversant parce qu'elle parle de rencontrer quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré.
Regretter quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré, oui. Mais je ne vais pas commencer par mon texte.
Si, dites-nous quand même, vous pouvez revenir peut-être sur les...
Oui, alors c'est peut-être...
Singulière de rencontre quand même, malgré tout.
Oui, mon texte, traite de la question de l'autos, donc de la même-té, comment elle peut se décliner dans l'autobiographie et dans ce qu'il peut y avoir de narcissique dans le portrait photographique. Donc, deux choses qui étaient extrêmement présentes chez Derrida. L'une, la question biographique, vous savez, il a écrit des textes très, très personnels, à l'encontre de beaucoup de philosophes. Pour lui, le bios, la vie et l'œuvre n'étaient pas deux choses qui s'excluaient mutuellement. Donc, il y a énormément, les mémoires d'aveugle, circonfession, énormément d'entretiens qui livrent aussi le monolinguisme de l'autre, énormément de textes très intimes. Et de l'autre côté, vous le savez aussi, on en a ici un très bel exemple, Derrida était peut-être le philosophe le plus photographié de toute l'histoire de la photographie. Il était très beau, ça c'est clair, on ne peut pas le nier. Et donc, on a aussi beaucoup de documentaires, de films qui ont été réalisés. Évidemment, dans la logique de la déconstruction, cette chose-là ne doit pas être vue naïvement. C'est-à-dire que même ce recours à l'image, il y jouait, il le déconstruisait. C'est-à-dire, il essayait de comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière cette fascination, quels étaient les mécanismes qui étaient à l'œuvre dans tout ça. Et évidemment, la photographie, dans le texte de Roland Barthes sur la photographie aussi, c'est dit plusieurs fois, la photographie fait remonter les spectres. La photographie, c'est quoi ? C'est une sorte de court-circuit entre un instant passé et un instant présent. C'est-à-dire, on voit la fameuse photographie du condamné à mort comme une sorte de icône photographique, une sorte d'essence de la photographie. Le condamné à mort pris en photo faisait ressortir cette logique paradoxale de quelqu'un qui est déjà mort, parce qu'aujourd'hui il n'est plus là, mais qui va mourir dans la photographie qu'on regarde. Et Derrida et Barthes, tous les deux, disent ben, finalement, c'est ça le charme de la photographie. Souvent, qu'est-ce qu'on regarde des photographies ? Ben, on regarde les photographies des êtres qu'on a perdus, que ce soit des êtres qui sont disparus ou alors les enfants qui ont grandi. Ben, c'est plus le même être qui est là, c'est un autre être qui l'a remplacé. Donc voilà, c'est un peu sur ces questions-là que je me suis amusée à intervenir. Mais voilà, et donc la question de la photographie, qui est aussi une question de technique. Donc, comme vous parliez aussi, je trouve aussi que c'est vraiment un des fils peut-être les plus intéressants aussi du recueil. C'est-à-dire, voilà, ces spectres, ces fantômes, hein, vous vous souvenez Derrida dans ce film qui s'appelle Ghost Dance, elle dit « L'avenir est aux fantômes ». Il avait très bien compris que c'était les nouvelles technologies qui auraient voilà, inaugurer une ère des fantômes. Et en effet, on a ici des articles qui le montrent très bien, en particulier l'article de Giovanna Borradori, qui est une philosophe. Alors, c'est beaucoup d'Italiens, ça. Voilà, on pourrait se poser la question pourquoi, mais je pense que ce n'est pas qu'une question personnelle. Je pense que c'est vraiment aussi une sorte de Italian Theory, qui est en train aussi de prendre le pied, mais peut-être je me trompe. Mais Giovanna Borradori, qui est une philosophe et qui avait réalisé un entretien très intéressant sur le concept du 11 septembre, quelques jours plus tard, juste après les attentats du 11 septembre, un entretien croisé entre Derrida et Habermas, vraiment très intéressant, qui était déjà visionnaire, je dirais, par rapport à ce qui allait nous attendre, hein, toutes les nouvelles formes de terrorisme qui malheureusement nous attendaient à partir de là. Et bien, elle a écrit un article très beau pour ce volume qui porte sur en fait la transparence et le secret des nouvelles technologies, à travers les nouvelles technologies. Et donc, à travers la lecture de Derrida, elle montre comment, finalement, un certain goût du secret, pour reprendre l'expression de Derrida, ne veut pas dire, ne signifie pas le cryptage et l'obscurité, mais au contraire, c'est quelque chose de protecteur par rapport aux fantasmes de vision totale, hein, qui sont les fantasmes voilà, des totalitarismes. Maurizio Ferraris aussi a écrit un très bel article sur la question, par exemple, des data, c'est-à-dire comment cette nouvelle forme d'inscription alimente le capital. Donc, une sorte de nœud d'articulation entre économie et nouvelles formes d'inscription. Stiegler a écrit un article où il revient sur le Derrida, peut-être un peu plus ancien, c'est-à-dire le Derrida de la grammatologie, où il se rattache plutôt à la philosophie husserlienne qui avait inspiré les débuts de Derrida, pour parler de ce que Stiegler appelait la rétention tertiaire, c'est-à-dire dans les formes de rétention pour Husser, il y avait la rétention première, qui était la perception, la rétention secondaire, la mémoire. Pour Stiegler, il y a une troisième forme de rétention, qui est la rétention de la technique. Donc, une rétention qui est à mi-chemin, disons, entre une intériorisation et une extériorisation à travers les objets techniques. C'est un article assez hardcore de Stiegler, mais très intéressant. Et aussi l'article, justement, sur la justice algorithmique, qui est peut-être quelque chose d'assez, je trouve, assez original, parce que vous savez que Derrida a écrit aussi beaucoup sur la question et la différence entre loi et justice. Et Emmanuel Alloa, lui aussi philosophe, revient sur cette question en posant le problème comment une justice algorithmique, donc qui est une justice d'anticipation, peut toujours être justice parce qu'elle ne prend pas en compte la question de l'équité et du jugement. Et donc, voilà, c'est des questions qui sont tout à fait actuelles et je pense qui nous encouragent à penser.
Merci Sarah. Je vais laisser Alexis évoquer d'autres contributions qui forment ce volume, mais juste peut-être avant, parce qu'en vous entendant parler de photographie, de traces et de Barthes et de Derrida, m'est revenu un souvenir qui permet de continuer à répondre à Alexis sur les transformations de l'espace public. Il y a une petite dizaine d'années, un peu moins de temps que ça, je me suis retrouvé pendant un moment à travailler comme conseiller de programme à Arte. Et à un moment où la chaîne avait lancé une série de documentaires sur des intellectuels disparus, de portraits au fond. Et ce qui d'ailleurs me surprenait, enfin, moi mon rôle ça a été de leur dire mais pourquoi ne pas produire ces films sur ceux qui sont encore vivants, ce qui m'a conduit à faire une série par la suite pour France Télévisions qui s'appelle Les intellectuels du 21e siècle, où j'ai fait 25 films d'entretien au long cours. Mais toujours est-il que ces films étaient consacrés à Louis Althusser, à Roland Barthes, à Jacques Derrida, etc. Et j'avais, dans mon rôle de conseiller de programme, j'ai assisté au visionnage de ces films pas encore tout à fait terminés d'être montés, d'un côté Barthes, de l'autre Derrida. Le film de Barthes était un film co-réalisé par Thierry Thomas et Chantal Thomas. Le film sur Derrida était co-réalisé par Benoît Peters et une amie de longue date qui est Virginie Linhart. Et en fait, ces films qui concernent deux intellectuels de la même génération étaient extraordinairement différents dans la forme et pas uniquement du fait du parti pris des réalisateurs, mais du fait des contraintes qui pesaient sur les réalisateurs, et c'était en termes de sources d'images. C'est-à-dire que, en fait, le film sur Barthes était constitué d'images d'archives extraordinaires, un entretien avec Pierre Dumayet en particulier, une émission spéciale de Bernard Pivot, et puis un entretien qui avait été fait pour les éditions du Seuil dans les années 60, où Barthes parlait de tous ses livres de façon systématique. Bon, il y avait trois sources là majeures qui étaient croisées, qui permettaient de construire un film qui était un film d'archives de Barthes parlant devant une caméra. Et puis pour le cas de Derrida, il n'y avait rien. Et pourquoi il n'y avait rien? Parce que je me rappelle très bien que Virginie m'avait expliqué qu'il avait cherché partout Alina et que les seules choses qu'il y avait, c'était des choses qui dataient du début, pour les plus anciennes, du début des années 1980. Moment à partir duquel Derrida a accepté de se laisser filmer, ce qu'il ne faisait pas auparavant. Or, c'est intéressant du point de vue de l'histoire des médias, de l'histoire des idées. En fait, 1981 et les transformations de la télévision qui ont suivi l'arrivée de la gauche au pouvoir, avec une ouverture du nombre de chaînes, avec Canal+, puis etc., Arte, a eu, je ne sais pas si c'est un effet, ce serait rapide de le dire, en tous les cas, était concomitant d'une forme de fermeture de la télévision à la parole des intellectuels. Et les seules traces qu'il y avait de Derrida à la télévision étaient des traces dans l'émission de Franz-Olivier Gisbert, dans des talk-shows où on le voyait parler quelques minutes, mais pas d'entretien au long, comme Barthes avait pu en bénéficier. C'est-à-dire qu'au moment où Barthes disparaît, hein, qui coïncide avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, c'est aussi le moment où Derrida accepte d'apparaître à la télévision, mais il n'y a plus de place pour lui à la télévision. Voilà. Et donc, je pense que c'est une manière aussi de répondre à votre question. Et ça se voyait, mais vraiment, ça sautait aux yeux en regardant ces deux films. Parce qu'après tout, ils concernaient des gens qui avaient très peu d'écart enfin, dans leur date de naissance et qui avaient construit des œuvres, certes, probablement un petit peu plus tôt pour Barthes en termes de publication, mais enfin bon, à peu près parallèles. Et je trouve que c'est très, très étonnant. Alors, il y avait beaucoup d'archives radio, hein, Derrida, énormément d'audio, mais pas de télévision. Voilà. Je vous laisse poursuivre sur...
Non, mais la transition, elle est assez facile. C'est-à-dire que, en écoutant Sarah, je m'apercevais qu'effectivement, l'interrogation sur la technique, etc., était une trame principale, et je crois que l'autre trame, c'est la notion d'indécidable. La notion d'indécidable qui est au cœur même de la notion de dissémination. Je rappelle que il y a déjà une dissémination du terme de dissémination, puisque c'est Derrida qui lit Jean-Pierre Richard qui allume Mallarmé, et que donc le terme de dissémination apparaît chez Mallarmé. Jean-Pierre Richard, lecteur structuraliste, ça, s'en empare, et Derrida n'est pas satisfait de la manière dont Jean-Pierre Richard... Et il va développer donc, dans l'ouvrage qui s'appelle « La dissémination », soit à partir de Mallarmé, soit à partir de Baudelaire et du récit « La fausse monnaie », il le reprendra ensuite, cette idée de « on ne peut pas décider ». La fausse monnaie Baudelaire, bon, il faut se souvenir l'anecdote parce qu'elle me semble très, 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 très emblématique. Quelqu'un donne à un pauvre une fausse pièce de monnaie. Et ça peut valoir au pauvre soit la fortune, parce que si le pauvre réussit à échanger cette pièce de monnaie contre d'autres pièces de monnaie, ben, on ne s'apercevra pas que la pièce était fausse, et donc il deviendrait riche. Soit un officier de police le saisit, voit que c'est de la fausse monnaie, et le pauvre va finir en prison. Donc, le don de cette fausse pièce de monnaie, on ne peut pas décider à l'avance de ce qu'il en sera. Et donc, on ne peut pas lui attribuer une signification. Et pour Derrida, la dissémination, c'est exactement ça. La polysémie, c'est assez simple. La polysémie, c'est un catalogue d'une multiplicité de significations possibles. Et on peut choisir selon notre idéologie, selon notre mémoire, selon nos affects, etc. Alors que la dissémination, on ne peut pas choisir. On est face à de l'indécidable et il faut faire avec. Et il faut faire avec. Parfois, c'est tel aspect qui pourra nous aider à comprendre le réel. Parfois, un autre aspect. Enfin, la dissémination, c'est ça. On est constamment en face de l'indécidable. Et je crois que cet indécidable, c'est pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, si on pense l'héritage du côté de la dissémination, on ne peut pas décider de ce que serait cet héritage-là. Et d'une certaine manière, hériter de Derrida, c'est ne pas savoir comment hériter ou ne pas pouvoir décider « je retiens ça, je retiens ça ». Et ce qui est intéressant, c'est que la notion d'héritage, hérité de Derrida, je crois que pour tous les contributeurs du volume, c'était aussi hérité de la mort de Derrida. Et qu'à la limite, la mort de Derrida, c'est aussi l'indécidabilité. Puisque, à la limite, espérons qu'il pourrait nous dire, malgré tout, c'est quoi la définition de la dissémination ou c'est quoi la définition de la déconstruction. On a toujours cette hantise-là de finalement être rassuré. Mais il est mort. Et cette mort-là est aussi une espèce de mort qui nous met sur la voie de comprendre. Effectivement, quand il y a mort, on est dans l'indécidable. Ensuite, puisque le présent n'est plus là, le vivant n'est plus là pour pouvoir dire « je suis ». Donc on est dans l'indécidable. Et je crois que cet indécidable, je le retrouve, par exemple, dans le texte... Je ne veux pas... C'est encore en italien, tu me diras.
Laura.
Dans le texte de notre ami Ernesto Sferrazza Pappa, sur l'hospitalité. On ne peut pas décider de l'hospitalité. L'hospitalité, elle doit être inconditionnelle. Là, l'actualité, elle est évidente. Elle est évidente. Je veux dire, l'impasse des soi-disant politiques migratoires, parce qu'il n'y a aucune politique migratoire, la migration refuse d'être pensée par la gouvernance, donc il n'y a pas de politique, c'est justement de ne pas décider. L'hospitalité, c'est je ne décide pas de te donner ou non l'hospitalité. Derrida disait qu'une des choses les plus impolies, c'est de demander à quelqu'un son nom. Or, c'est un réflexe. Comment tu t'appelles ? Comment tu t'appelles ? Mais selon que la personne répond Charles ou Mohamed, ça y est, c'est foutu. Je veux dire, la rencontre est déjà complètement biaisée. Donc l'hospitalité, c'est ne pas lui demander comment il s'appelle, de ne pas pouvoir décider si je vais l'accueillir ou non. Donc l'indécidabilité comme critère de l'hospitalité inconditionnelle. Pour Lauro Auddello, la peine de mort. La peine de mort qui est justement la décision suprême. Il n'y a pas de décision plus radicale que choisir entre la vie et la mort. Et justement, Derrida nous amène à remettre, à déconstruire précisément cette idée de peine de mort on s'aperçoit dans l'analyse, la très belle analyse de Laura Odello, que la peine de mort, c'est un supplément. C'est quelque chose qui n'est pas, qui ne peut pas être pensé dans sa radicalité, mais qui vient simplement suppléer à l'exercice du pouvoir. Mikhaïla Fizerova, malgré son nom, elle est tchèque, elle n'est pas italienne. Ah ben, peut-être d'origine italienne, je ne sais pas. Les Italiens. Un très beau texte sur la signature. La signature, moi je décide de signer. Je m'affirme quand je signe. Mais pas du tout, parce que cette signature n'est valable que si elle reproduit une signature initiale et si on peut reconnaître cette signature-là par rapport aux autres signatures. Donc, mon identité que je crois être signifiée par cette signature, en fait, elle est dans l'indécidable et je ne pourrais pas décider de l'authenticité de cette signature puisqu'elle n'existe que par référence à une autre signature. Philippe Beck nous offre un article sur la définition du poème comme hérisson. Ça, c'est une définition du romantisme allemand. Et Philippe Beck va retourner cette idée en lisant Derrida, en disant qu'on ne peut pas décider si le hérisson, alors le hérisson qui est à la fois celui qui se protège et en même temps celui qui fait jaillir ses pointes. Oui, ses pointes. Non, on ne dit pas ses pointes. C'est piques. Non. C'est piquant. C'est piquant. Voilà. Merci Brigitte. C'est piquant du hérisson. Donc il est à la fois complètement refermé, mais en même temps complètement ouvert au monde, parce que les piquants sont destinés vers l'extériorité. Donc on ne peut pas décider de l'identité du hérisson. De la même manière, un texte sur Derrida avec les poètes de Francesca Manzari, où précisément on s'aperçoit que la poésie est toujours une affaire de dissémination. Elle joint un corpus, très très beau corpus, qui est le poète Cavalcanti, poète toscan, Ezra Pound, et le poète américain Zukowski. Et la manière dont la poésie n'est pas une, mais la poésie est disséminée, encore une fois, sans pouvoir décider qui fait quoi de quoi. Et qu'on est dans une espèce de continuité comme ça. Et enfin, il y a le très beau texte de Anne de Vries. Derrida a reçu le prix Adorno, alors que Cambridge lui a refusé le prix, etc., que Derrida a eu beaucoup de mal à trouver une place dans l'institution universitaire, etc. Il a eu le prix Adorno. Et Anne de Vries s'interroge sur deux ou trois textes que Derrida a écrits à la suite de ce prix, mais surtout, qu'est-ce que ça veut dire recevoir un prix, c'est-à-dire reconnaître l'autorité d'Adorno. Accepter le prix qui s'appelle Adorno, c'est reconnaître l'autorité d'Adorno. Pour quelqu'un qui manie la déconstruction, qui est avant tout une machine à déconstruire les autorités, qu'est-ce que ça veut dire? Et Anne de Vries répond du côté de cette notion à la fois énigmatique et en même temps très puissante de l'esprit. Penser dans l'esprit d'eux. Et je... Non, c'est l'article de Marc Abélès qui clôt. Mais oui. Les deux se répondent d'une certaine manière, puisque Marc Abélès aussi discute de cette hospitalité que l'anthropologie a exercée ou non à l'endroit. Mm. Est-ce que l'esprit de Derrida a pu être suffisamment persuasif pour même être dans le champ de l'anthropologie? Et donc je crois que cette notion d'esprit, elle est... Bon, on sait qu'elle occupe une place très très importante chez Derrida. Et tout d'un coup, Derrida est pour nous un esprit. C'est-à-dire à la fois une inspiration et en même temps un fantôme qui vient nous hanter. Donc il y a quelque chose là de l'ordre de cet indécidable. Et je crois que c'est... Vous voyez, pour un pessimiste, je crois que tout d'un coup, il y a une jubilation qui me vient quand je m'aperçois que nous avons beaucoup joué. Le jeu, c'est effectivement la mise en scène de l'indécidable. Et je crois que nous avons joué dans ce volume-là. Freud disait le contraire du jeu, ce n'est pas la réalité, mais c'est le sérieux. Donc le jeu, c'est extrêmement sérieux. Et je crois que nous avons joué dans la mesure où nous avons fait surgir des objets que Derrida avait ou non déjà approchés, mais que nous avons pris au sérieux cette injonction que de faire jouer ces objets avec, je dirais pas la pensée de Derrida, ni l'héritage de Derrida, mais justement avec ce qui est de l'ordre de la dissémination.
Avec, puisque vous utilisez l'expression en écho, des spectres de Derrida.
C'est, je veux dire, la notion de spectralité, qui encore une fois tient une place extrêmement importante chez Derrida, elle est, je crois, liée à une notion. Aujourd'hui, on est le 30 septembre. 30 septembre, c'est la Saint-Jérôme. Et c'est la journée internationale des traducteurs. Puisque Saint-Jérôme, c'est le saint patron des traducteurs. Et je pense que la manière dont Jacques Derrida a pensé la traduction, c'est de ce qui nous permet de comprendre ce qu'il entendait par la spectralité. C'est-à-dire la traduction, non pas le transfert d'un sens, d'un cadre linguistique à un autre cadre linguistique, mais la manière dont un original demande à être traduit et la manière dont la traduction sait qu'elle ne pourra jamais traduire l'original. On est véritablement, encore une fois, dans ce possible-impossible, dans un double endettement. L'original a besoin de la traduction, parce que s'il n'y a pas une traduction, il ne sait pas qu'il est original. Et en même temps, la traduction a besoin de l'original pour se légitimer en tant que traduction. Et on est toujours dans la hantise l'un de l'autre. Et je crois que cette notion de traduction, à savoir qu'il y a cette circulation infinie. La dissémination, c'est une circulation infinie du sens. Ce qui ne veut pas dire la perte, mais ce qui veut dire l'absence d'origine.
Merci pour cette visite à grands pas du volume, mais qui en a donné toute l'ampleur et voilà, a pointé les directions multiples qu'il emprunte. Mais puisque Marc Abeles est là et qu'il conclut le volume, peut-être il pourrait nous dire un mot de son texte. Je crois qu'il y a un micro qui peut...
Voilà, c'est plus facile comme ça. Bien, écoutez, non, moi, je n'étais pas prédestiné à écrire un texte sur Derrida. C'est un petit peu à la demande de Sarah, suite à des discussions qu'on avait eues, justement, sur les rapports entre l'anthropologie et la philosophie. En gros, moi, je fais partie d'une génération qui a découvert Derrida au moment de ses études. Quoi. J'ai commencé à lire des choses de Derrida en 67-68, à peu près. Et puis, bizarrement, enfin, ensuite, j'ai travaillé avec Lévi-Strauss et c'est un peu ce que je raconte. C'est-à-dire que, sans le vouloir, j'ai mis un peu les pieds dans le problème, c'est-à-dire le texte qu'avait écrit Derrida à propos de Triste Tropique sur l'écriture et sur la question, justement, est-il possible, en fait, d'avoir une parole pratiquement... Ça mettait en cause, en fait, toute la question de l'ethnographie, de la parole, de la transparence de la parole, etc. Et j'en avais parlé à Lévi-Strauss avec beaucoup d'enthousiasme un jour où je le voyais et il m'a tout de suite coupé en me disant que c'était de la philosophie et que en tant qu'étudiant en anthropologie, ça ne me concernait pas. Et on en est resté là et j'ai constaté qu'autour de moi, dans mon milieu, en fait, Derrida était complètement absent. C'est-à-dire que moi, il m'arrivait de suivre des séminaires de Derrida, ou etc., mais je ne connaissais personne. Et en plus, Derrida s'est mis à enseigner à l'École des hautes études et de nouveau... Il n'y a eu aucun contact, en fait, entre l'anthropologie, etc. Et en fait, moi, j'ai redécouvert l'influence de Derrida aux États-Unis, où j'ai pas mal enseigné à une certaine époque, et j'ai compris une chose, c'est qu'en fait, peut-être ça, c'est pour compléter un peu ce qui a été dit, c'est qu'il s'agissait, en fait, d'une pensée mondiale. C'est-à-dire que l'impact de Derrida s'est complètement déplacé. C'est-à-dire quand je revenais en France, j'avais l'impression que Derrida, c'était effectivement des discussions à l'intérieur d'un cercle assez... précis, assez élitiste, etc. Et quand j'allais aux États-Unis, il était absolument présent. Enfin, non seulement quand il donnait des conférences, c'était comme une star, mais aussi dans les départements d'anthropologie, justement, on ne voyait pas Lévi-Strauss du tout dans les bibliographies et on voyait que Derrida ou Foucault, par exemple. Donc ça amène quand même à réfléchir et on peut se demander aussi dans quelle mesure, en fait, il n'y a pas quelque chose qui s'est produit et peut-être qui a disparu aujourd'hui. C'est-à-dire que tout d'un coup, la pensée de Derrida avait un très, très gros impact sur la manière de considérer, finalement, l'analyse des sociétés. et le travail, même le travail pratique, le travail de terrain qu'on pouvait y faire. Et c'est vrai que ça a été tout un courant qui était ce qu'on appelait post-structuralisme, post-modernisme. Et c'était très, très, très important et ça ne revenait pas du tout en France. Ce qui fait qu'il y avait une sorte de schizophrénie entre des gens qui voyaient d'un côté Derrida comme un philosophe, pur philosophe, etc. Et puis de l'autre, quelqu'un qui était au contraire une sorte de patron des sciences sociales. Et c'est intéressant. Je pense que la question de la dissémination... Moi, je vois quand même aussi Derrida dans une perspective stratégique. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment, il avait une stratégie. Et ce n'était pas seulement, tout le monde s'en acquiert des choses, s'en sert, etc. Non, il y avait vraiment un projet. Et peut-être c'est ce qui manque aujourd'hui. Ce n'est pas tellement le fait que les choses soient plus ou moins bien, etc. Moi, je ne pense pas du tout. Je pense aussi, comme dit Sylvain Bourmeau, je pense que la science sociale, ça ne s'est pas dégradé, etc. C'est un peu comme on dit, l'enseignement, c'est moins bien. Enfin, les élèves sont le niveau abaissé ou je ne sais pas quoi. Non, moi, je pense simplement qu'il n'y a plus peut-être des projets stratégiques de ce genre et des projets politiques, mais au sens où véritablement on va, avec ses ressources, avec les moyens qu'on peut avoir, porter le fer sur un certain nombre de questions, choisir des questions, mais en restant complètement dans son univers, sans faire la concession. Et c'est là, effectivement, que les grands combats violents, émotionnels... Et peut-être qu'il y avait aussi cette chose-là, c'est qu'il n'y avait pas cet aspect perpétuellement émotionnel, premier degré, etc. Pas du tout. Et la pensée n'en avait que plus d'impact. Alors qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est le contraire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'est pas dans ce truc émotionnel, évidemment, on est décalé. Donc voilà, moi c'est un peu mon sentiment, et c'est ce que j'essayais de communiquer dans mon texte, c'était ces difficultés beaucoup plus profondes, en fait, entre des pensées qui sont toutes les... Enfin, je pense à Lévi-Strauss et Derrida, par exemple, qui sont toutes les deux très, très passionnantes et qui n'arrivent pas, finalement, à converger du tout. Elles sont dans la même langue. C'est-à-dire que autant Derrida est compris à la même époque par des Américains comme Clifford Geertz, etc., autant il se heurte à quelque chose qui n'est pas, encore une fois, je l'interprète pas comme des questions de rivalité, je l'interprète plutôt comme des décalages. Et je pense qu'il y avait chez Derrida quelque chose parfois qui mettait profondément en cause. Et ça, je suis persuadé pour l'ethnographie, hein, pas tellement pour le discours anthropologique en général. Alors qu'aujourd'hui, on revient plutôt en anthropologie dans ma discipline, disons, on revient plutôt à un discours lévi-straussien, à quelque chose de plus structuraliste, disons, qui a aussi son sens, mais qui est peut-être plus du tout ce qu'on essayait de faire à ce moment-là, par exemple. Mais pourquoi pas, je veux dire.
Ce que vous dites, Marc Eveles, à propos de ces deux, de Derrida et de Lévi-Strauss, qui n'appartenaient pas à la même génération, pourrait, d'une certaine façon, être dit et très troublant pour ce que j'en ai observé, des relations entre Pierre Bourdieu et Jacques Derrida, qui, alors pour le coup, étaient des camarades, enfin, de classe préparatoire, et qui ont gardé jusqu'au bout, jusqu'à la fin, une grande estime, une amitié l'un pour l'autre, et pour autant, on ne voit pas comment ça s'articule. Enfin, je veux dire, c'est vraiment sur des rails totalement parallèles, quoi.
Ça coulait de source, quoi. C'était pas choquant, alors qu'à Paris,
ça n'empêchait pas humainement de voilà, il y avait
oui. Mais je pense que ça va complètement au-delà.
Il y a d'autres questions, interventions, remarques. Non, personne ne veut prendre la parole. Vous voulez ajouter quelque chose, Sarah ou...
Ben, écoutez, bon, les discussions ont été très riches, donc il y aurait encore beaucoup à faire. Mais un mot que peut-être on n'a pas tellement utilisé, pourtant, c'est vraiment un mot-clé de la, voilà, de l'œuvre de Derrida, c'est le mot déconstruction. Et je pense que finalement, tu vois, je revenais un peu sur le texte de Marc Abeles, justement. Je trouve que ce qui émerge du texte de Marc, c'est aussi que justement, corrigez-moi Marc si je dis quelque chose qui ne correspond pas à votre volonté, mais il me semble que vous reprochez un peu aussi à Lévi-Strauss le fait de rester aveugle à cette, comment dire, réflexivité au sens kantien du terme et force déconstructive de la pensée que justement Derrida avait pointé avec sa critique de la grammatologie. Et je pense que ce mouvement de la déconstruction, c'est quelque chose qui peut répondre aussi aux doutes et craintes d'Alexis, par exemple, et aussi les vôtres par rapport aussi aux médias et cette accélération qu'on est en train de vivre. Parce que finalement, bon, c'est une sorte de psychanalyse de la pensée, c'est-à-dire, OK, ça c'est le réel. Pour l'instant, on ne peut pas en sortir. C'était un peu ce que Derrida disait de la métaphysique. Voilà, on y est dedans et n'importe quel mot je puisse dire, discours, ne peut pas tomber à côté ou dans l'extérieur. Donc, ce qui me reste à faire, c'est de le déconstruire, d'en comprendre les mécanismes profonds pour, et ça, c'est ce qu'on fait avec la psychanalyse, hein, pour vous dire, voilà, moi, ce qui me fait sourire souvent et qui est de grand soulagement aussi pour les personnes qui viennent nous voir, c'est que j'ai plein de gens qui arrivent, qui me disent, mais je suis dysfonctionnelle, je fonctionne mal. Évidemment, j'ai toujours un peu mal à entendre un être humain parler comme ça de son être, mais quand je leur dis, ben non, ce n'est pas dysfonctionnel. En fait, c'est les défenses que vous avez trouvées et c'est la solution que vous avez trouvée pour faire face à cette difficulté. Mais du moment où vous comprenez pourquoi vous les avez mis en place, ben, à partir de là, on avance. Je trouve que la déconstruction pour la pensée, pour certaines choses, et je pense notamment à l'accélération, et je pense alors notamment encore un déplacement, une dissémination à l'œuvre de Hartmut Rosa sur l'accélération. Bon, c'est peut-être ça aussi qu'elle nous en apprend, c'est-à-dire à ne pas baisser les bras et dans le pessimisme, faire cette activité d'analyse, qui est aussi une activité politique.
Ça y est, on est reparti.
On peut continuer aussi autour d'un verre. Hein.
Mais la question, c'est les conditions de cette analyse. Les conditions de cette analyse. Si malgré tout, on est d'accord pour dire que quelque chose a changé entre les années, la fin du XXe siècle et aujourd'hui, il y a aussi les conditions de cette analyse. Une admiration, l'admiration que je porte à Derrida, c'est aussi, je parlais d'audace, de courage, c'est d'avoir, par rapport à des évidences comme le don, la mort, la langue, l'écriture, bon, des choses qui sont complètement de l'ordre du donné empirique qu'on ne va pas discuter, c'est d'avoir les avoir pris à bras-le-corps et d'avoir osé les déconstruire. Bon. Et ce qui me semble aujourd'hui le défi, c'est de reprendre cette méthode, non pas au sens épistémologique, mais au sens que Derrida lui-même rappelait, c'est-à-dire comment marcher, reprendre cette méthode-là dans d'autres conditions d'analyse. Où je pourrais prendre une image, faire de la psychanalyse non pas dans le cabinet de l'analyste, mais dans la rue, par exemple. Les migrants qui arrivent et qui sont dans des détresses psychiques abominables, comment aller vers eux ? Bon. Et je pense qu'il y a effectivement un défi. Je crois que d'une certaine manière, c'est aussi tous celles et ceux qui nous ont fait confiance, c'est de voir que les conditions de l'analyse derridienne ont changé et qu'il faut adapter la force de l'analyse derridienne à ces nouvelles conditions. La dissémination, c'est aussi d'une certaine manière une dissémination méthodologique, je dirais. Mm-hmm. Par exemple, accepter qu'un musicien ou un cinéaste puisse prolonger le travail de Derrida, et pas seulement un sociologue institutionnel ou un philosophe, etc. Et je crois qu'il y a cette bascule-là. Et je dois avouer que moi-même, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. Je veux dire, mais ce que je sais, que c'est par exemple par rapport à l'attente des étudiants, par rapport à la littérature, par exemple, la manière dont Derrida déconstruisait. Il y a une critique littéraire derridienne, etc. Et ça, mais la manière dont il lisait, il faut être fidèle à son esprit, mais en même temps apprendre à l'adapter aux nouvelles conditions de lecture. Est-ce qu'il est par exemple possible de déconstruire un discours qui apparaît sous forme de tweet, sous forme de... etc., etc. Un peu le défi d'AOC, c'est, je crois, aussi ça, c'est-à-dire de garder ce qui faisait la force de la pensée, à savoir des analyses de fond, etc., et en même temps utiliser une espèce de rythmique. Il y a un rythme, je crois qu'il y a un rythme. Le rythme, c'est la notion qu'a mis de l'avant mon autre maître à penser, qui était Henri Méchonic. Il y a un rythme qui était celui de Derrida, bon, qui était permis par son historicité, par son trajet aussi, on évoquait avec monsieur le trajet, enfin l'Algérie, l'exil algérien, etc., etc. Le rythme aujourd'hui me semble complètement différent. Et je crois que le défi, c'est de trouver comment garder cette exigence-là dans un rythme totalement différent.
Merci à tous les deux. Juste, je crois que peut-être l'une des clés pour répondre à cette question, c'est de garder de Derrida cette idée qu'on est requis, que c'est en réponse qu'on travaille. Et donc qu'on est notamment requis par l'événement, par l'actualité, et que c'est en réaction à l'événement qu'il nous faut produire. Et voilà, et ça, c'est au cœur de ce projet, c'est-à-dire, et même de l'enseignement que j'ai pu avoir ici, dont je me suis rendu compte vraiment avec surprise, parce que pour moi, c'est une manière d'être au monde. Quand on est journaliste, on accepte de se laisser bousculer chaque jour par l'actualité, mais dont je me suis rendu compte que c'était la chose la plus surprenante pour les étudiants, c'est-à-dire de ne pas être capable de leur dire, ben voilà, on va faire un séminaire pendant toute l'année, à telle date on va parler de ça, à telle date, ne pas avoir de programme, ne pas savoir de quoi on va parler la semaine prochaine, c'est quelque chose en fait d'extraordinairement subversif, y compris dans un lieu d'enseignement comme celui-là ici. Et ça, je crois que c'est une manière d'hériter. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Merci Sarah, et merci Alexis. Merci à vous.
Merci.